YouTube, Twitter et Instagram.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous pour aborder dans cette édition la question de la pénalisation de l'homosexualité, car plus de 60 pays dans le monde pénalisent l'homosexualité, passible de la peine de mort dans une dizaine d'États, comme en Iran ou en Ouganda récemment, pour homosexualité aggravée. En Europe et sur le continent américain, les lois l'interdisant ont été abolies. En Afrique, une trentaine de pays l'interdisent et quelques-uns ont aboli son interdiction récemment, comme le Gabon et l'Angola. Les agressions et la discrimination homophobe persistent dans toutes les régions du monde. Alors nous allons aborder ces questions avec Maximilienne Ngombe, qui est directrice exécutive du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, et Maître Drissa Traoré, qui est secrétaire général de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains. Je crois que nous avons déjà en ligne Maître Drissa Traoré, est-ce que vous m'entendez?
Oui, bonsoir madame.
Merci beaucoup d'être avec nous, maître, donc pour cette émission. Nous essayons de joindre Maximilienne Ngombe. Est-ce que nous l'avons déjà en ligne? Nous l'avons également. Madame Ngombe, comment allez-vous?
Je vais comme le Cameroun, c'est pas évident. Et comme l'Afrique centrale, très tendue en Afrique centrale.
Okay.
Et en tant que directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains qui couvre 8 pays de l'Afrique centrale, c'est un peu fatigant.
Bon, voilà, c'est un travail. Travail fatigant, comme vous dites. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour traiter un petit peu de la question de l'homosexualité, de l'homophobie, notamment sur le continent. Alors, commencez par vous, Maximilienne. Quelle est la position de votre organisation, le REDAC, sur la pénalisation de l'homosexualité?
Comme vous le savez, depuis 2016, le REDAC a été créé. Nous sommes positionnés pour les droits universellement connus, y compris, n'est-ce pas, la dépénalisation de l'homosexualité, parce que pour nous, ça rentre dans les droits fondamentaux et donc l'universalité des droits. Donc, pour nous, ce n'est plus à l'actualité. Pour nous, il n'est pas question de pénaliser, il est plutôt question de faire d'organiser les campagnes aujourd'hui pour faire à ce que les pays de l'Afrique centrale, de toutes les façons que nous couvrons, puissent continuer sur les pas, n'est-ce pas, du Gabon, comme vous le savez très bien, qui le Gabon a dépénalisé l'homosexualité, parce que pour nous, l'homosexualité, c'est pas une maladie, c'est comme l'hétérosexualité. Et c'est une liberté de vie privée et on doit respecter. Voilà la position du REDAC. Donc pour nous, nous ne sommes plus dans une posture de qu'est-ce que c'est que le monde, quelle est votre position, notre position claire depuis 2007, et nous sommes sur cette ligne et nous faisons tout et toutes les campagnes pour que l'homosexualité ne soit dépénalisée. Et avec des actions très concrètes, je pense qu'on en parlera tout à l'heure.
Absolument.
C'est l'occasion pour nous de rendre justice et rendre un hommage, n'est-ce pas, à la République du Gabon, qui courageusement a compris notre combat et à dépénaliser l'homosexualité, parce que quand c'est fait, et c'est bien, il faut le dire.
Merci Madame Ngombe. Maître Drissa Traoré, vous-même, quelle est la position donc de la FIDH sur cette question?
Oui, merci. Vous savez, la FIDH est une fédération d'organisations à travers le monde et sur tout le continent. Et la FIDH se bat, continue de se battre pour l'universalité des droits humains. Et qui parle de l'universalité des droits humains dit que toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle, devait voir ses droits respectés, reconnus et préservés, protégés. Et donc pour l'AFDH, il n'est pas question de laisser ni cours aux discriminations que subissent les personnes homosexuelles. Et donc notre combat, en tout cas, c'est de faire en sorte que leurs droits soient non seulement reconnus, mais respectés partout à travers le monde.
Merci beaucoup, maître Drissa Traoré. On va écouter tout de suite la réaction d'un de nos auditeurs. C'est Latif, il est au Togo.
France VOA est natif de Lomé au Togo. Ici, nous n'avons qu'une seule communauté, la communauté des hommes. Il n'y a pas une autre communauté, à mon avis, nommée communauté LGBT. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. L'État protège tout le monde. Nul n'a le droit de porter atteinte à son prochain. L'État protège également sa jeunesse contre la perversion et la corruption. Et nous avons, à travers la campagne médiatique qu'on fait autour de l'homosexualité, nous avons le sentiment qu'on veut nous imposer une pratique qui n'est pas de nos us et coutumes.
Alors voilà, vous pouvez rebondir sur cette question parce que plusieurs de nos auditeurs finalement ont à peu près le même sentiment et en effet on l'entend assez souvent, nombre de personnes en Afrique ont l'impression finalement que l'homosexualité leur est imposée par l'Occident. Maximilien Ngombe, qu'est-ce que vous auriez à répondre à cela?
Je voudrais que les Africains arrêtent de se méfier tout le temps. L'homosexualité, c'est pas quelque chose qui est imposé par l'Occident. L'homosexualité, c'est pas une maladie. L'homosexualité, c'est comme quelqu'un qui est hétérosexuel. On naît avec. Et je voudrais dire aux Africains que tout le monde sait que dans nos maisons, dans nos villages, nous avons été confrontés à quelqu'un qui a été homosexuel, même si on a caché. Et les études ont démontré, et je les ai lues, que l'homosexualité est venue de l'Égypte antique. Et tout le monde est aujourd'hui unanime que l'Égypte antique, c'était l'Africain. Alors, comment on peut en même temps revendiquer que nous venons de l'Égypte antique qui a été à l'origine de l'homosexualité, il n'y avait pas encore les Européens, et qu'aujourd'hui, on soit en train de nier que c'est une pratique occidentale? Je dis et je répète, nous devons, les Africains, cesser, n'est-ce pas, de démontrer, n'est-ce pas, que nous ne pouvons pas assumer ce que nous sommes et de penser que l'enfer, c'est les autres. Nous ne faisons pas l'apologie de l'homosexualité. Nous disons, nous continuons à dire que le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la vie privée, le droit à avoir un travail décent et tous les autres droits à l'association, ce sont des droits fondamentaux, ce sont les libertés fondamentales, sans discrimination. D'où est-ce que sur mon visage, on peut lire que c'est l'homosexualité? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, certains de nous sommes les chrétiens, d'autres les musulmans, d'autres les bouddhistes et ainsi de suite. Nous avons entendu le pape François, qui est quand même une certaine vision du monde, qui a dit « Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour donner de l'amour. »
Absolument.
Je pense qu'il est temps que nous, les Africains, nous puissions commencer à dire: est-ce que ce n'est pas une instrumentalisation étatique? Est-ce que, quand on se regarde, est-ce que ce qu'on dit, est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas une imposition, il n'y a pas quelque chose que l'Occident nous impose. Il y a que nous devons nous-mêmes dire: nous sommes un et indivisible, nous avons des droits universellement reconnus. Et sans discrimination, nous devons faire à ce que ces droits soient respectés. Voilà ce qui nous anime. Et que nos États, ou que ce soit ratifié librement, ils ont signé ces instruments librement. Le reste, pour nous, ce n'est que de la diversion.
Merci Maximilien Ngombe. Maître Drissa Traoré, la culture, hein, une grande majorité de personnes en Afrique pensent que les homosexuels menacent les valeurs traditionnelles. Et on sait que les réactions de la communauté internationale sur les lois homophobes génèrent également des réactions de certains dirigeants africains qui, à juste titre, on va dire, estiment ne pas avoir de compte à rendre aux pays étrangers en ce qui concerne leur législation interne. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je pense que quand on parle des valeurs africaines, on oublie un certain nombre de choses. Parce que n'oublions pas que l'Afrique et même les États africains, au sein des États africains, on a des peuples, on a des cultures qui sont totalement différents les uns des autres. Et en Afrique, il y a certaines cultures, il y a certaines coutumes qui mettaient en avant la question, par exemple, de l'exclusion. Or, le combat de l'exclusion, contre l'exclusion n'a pas été présenté comme un combat contre la culture africaine, contre les valeurs africaines. Parce que cela, dans le passé, c'était considéré comme des actes, des pratiques qui étaient normaux pour les Africains. Et puis, quand on parle de l'homosexualité, on a tendance à utiliser des pratiques en omettant qu'en réalité, c'est une orientation sexuelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à faire, mais c'est quelque chose qui est inné en ces personnes-là, du fait même de leur constitution, de fois physique ou physiologique, hormonale également. Et donc, il faut peut-être dépasser ces clichés qu'on a déjà. Et deuxièmement, peut-être que, des fois, la réaction des pays occidentaux amène les populations africaines à se replier, surtout que nous sommes dans une ère, j'allais dire, afrocentrisme éduqué, sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, etc., etc. On a tout ce développement de groupuscules afrocentristes qui estiment donc que ce sont eux qui portent les valeurs africaines. Et donc, c'est vrai que la réaction de l'Occident peut être utilisée par certains groupes pour dire que voici, ce sont l'Occident qui nous impose. Mais en réalité, ces personnes LGBTQI+, ce sont des Africains, ce sont des gens qui suivent avec nous, ce sont des gens qui sont dans notre culture. Comme Emilienne l'a dit, c'est des choses qui existent depuis l'Afrique antique. C'est vrai que par le passé, ça ne se voyait pas parce qu'on tuait des enfants qu'on voyait qui avaient cette orientation dès le bas âge. On les faisait taire, on les faisait interner dans des centres, on les prenait pour des fous, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient de l'Occident. En réalité, c'est une orientation qui existe dans l'Afrique depuis longtemps et nous devons, en tant qu'Africains, apprendre à vivre avec nos réalités, avec les faits qui se déroulent dans notre continent. Et donc, autant on a combattu contre l'exclusion, autant on a combattu contre le mariage forcé qui existait dans nos cultures également. Parce qu'on ne va pas nous dire que dans nos cultures, c'était de faire les parents qui choisissaient le mari pour la fille qui n'avait pas son mot à dire. Quand on a combattu cela, on n'a pas mis cela contre les valeurs africaines, alors que certains peuples pouvaient considérer que c'était contre les valeurs. Et donc, il faut apprendre, pour moi, à évoluer avec les droits qui sont là, avec les orientations qui sont claires, qui s'expriment, parce qu'avant, ça ne s'exprimait pas. Et donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose que l'Occident veut nous imposer, mais c'est une réalité africaine avec laquelle il faut vivre, laquelle il faut prendre en compte en légiférant dans nos États.
Maître Drissa Traoré, Maximilien Ngombe, restez avec nous. On va écouter la réflexion d'un de nos auditeurs. C'est Alpha, il est en RDC. Et après, on écoutera tout de suite celle de Oumarou, qui est au Niger.
Salut la VOA, salut à tous les auditeurs de la VOA. Et la situation ici chez nous en RDC est semblable à d'autres pays africains et d'autres pays du monde qui n'ont pas donné vraiment la position par rapport à ce sujet. Ça, c'est selon ma connaissance, il n'y a pas vraiment une loi reconnue qui pénalise, soit qui favorise l'homosexualité ici chez nous en RDC. Par rapport au comportement de la société vis-à-vis à cette catégorie de personnes, c'est parfois un sujet de moquerie. Donc d'une manière générale, je dirais simplement que c'est un sujet qui est encore dans le congélateur, si on peut le dire. Parce que même pas dans l'Assemblée nationale, même pas dans des assemblées provinciales, entendre ce sujet être débattu. Merci une fois de plus, la VOA.
Pourquoi ta maman, ton père, ils ont fait un rapport pour que tu es venu dans le monde, mais toi, tu vas dire que tu vas se marier avec le même sexe que tu as. Par comment? Et toi, tu ne sais pas comment on t'a mis au monde? Mais c'est vraiment dommage, c'est quelque chose qu'on ne croit même pas.
Voilà, vous avez vu donc des commentaires plutôt critiques, hein, sur la question. Maximilienne Ngombe, tandis que les commentaires homophobes pullulent, hein, sur les réseaux sociaux, la majorité des personnes LGBT+ sont silencieuses. Est-ce que cela veut dire que de nombreux homosexuels n'ont pas le soutien de leur entourage? Comment on vit exactement l'homosexualité en Afrique?
Je ne peux pas dire que la majorité n'a pas le soutien de leur entourage. Je veux dire qu'il y a l'instrumentalisation de l'homosexualité par d'abord les gouvernements, et je les accuse, parce que au lieu de protéger cette population vulnérable comme on peut protéger, n'est-ce pas, les bourreaux, les pygmées ou alors les albinos, on les jette dans la vindicte populaire alors que tout ce qu'elles demandent, ce n'est que de vivre tranquillement leur vie. Donc, je pense qu'il y a un soutien silencieux parce qu'ils sont, ils ne veulent pas les représailles, n'est-ce pas, vis-à-vis le représailles du gouvernement. C'est ça le problème. Le problème, c'était est-ce que le gouvernement, les gouvernements sont assez tranquilles et peuvent laisser l'entourage protéger ou bien soutenir les homosexuels sans représailles? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. C'est ça le vrai problème. Et non, et je réponds non. Les gouvernements ne sont pas parce que ce n'est même pas parce que c'est les populations ou bien c'est les coutumes, mais c'est parce que ça leur sert parce que la plupart des membres du gouvernement en Afrique sont soit bisexuels, soit homosexuels, et ils ne veulent pas que ce soit su parce qu'ils ont fait tout un tabou autour de cela. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a fait tout un amalgame entre la pédophilie, l'homosexualité et même la prostitution. Ces trois choses-là, il faut déjà qu'on commence à mettre chaque chose dans son coin. L'homosexualité, ce n'est pas la pédophilie. L'homosexualité, ce n'est pas la prostitution. Donc, à partir de cet amalgame fait par instrumentalisé par le gouvernement, ça nous amène à ce que personne ne veut prendre, n'est-ce pas, cette disposition. Mais ce que je veux dire aux Africains qui nous occupent, et je suis sûre qu'ils sont nombreux, parce que même s'ils ne parlent pas, ils sont bien connectés pour nous écouter, c'est pour leur dire que tant que ce n'est pas dans nos maisons, on peut toujours faire semblant, mais l'homosexualité, moi j'ai vécu l'homosexualité lorsque j'avais 10 ans, dans ma famille. C'était un jeune garçon qui avait peut-être 10 ans. Aujourd'hui, il est en Europe et tout le monde savait que toutes ces pratiques étaient les pratiques féminines, mais ça n'avait rien à voir avec un gars. Je ne savais même pas ce qu'on appelait homosexualité. C'est dans mon parcours, quand je commence à lire, à comprendre, à accompagner les homosexuels, que j'ai dit merde, mais j'étais avec mon frère, mon grand frère qui était homosexuel, et il me l'a avoué après. Donc, je dis, tant que ce n'est pas dans nos familles, on peut toujours dire n'importe quoi. Mais je dis, faisons attention à ne pas tomber dans l'instrumentalisation de la pédophilie et de la prostitution qu'on va mélanger avec les pratiques homosexuelles qui sont des pratiques consentantes, c'est-à-dire que deux adultes qui ne peuvent pas le faire autrement et qui sont attirés, qui ont une attirance en homme-homme ou femme-femme.
Absolument. Maximilienne. Ouais.
Donc, ça, c'est des choses qui existent.
Absolument. Je suis obligée de vous arrêter là. Oui, Maximilienne Ngombe, restez avec nous. Maître Drissa Traoré, les commentaires homophobes sur les réseaux sociaux et l'opinion publique, la désinformation qui met en danger la vie des personnes LGBT+, les discours homophobes aussi de certains dirigeants, comment gérer cela?
Déjà, il faut dire que y a un groupe qui est audible, qui parle, qu'on entend, c'est les homophobes. Maintenant, ceux qui militent et qui luttent pour les droits des personnes homosexuelles, malheureusement, ne sont pas audibles, ne parlent pas beaucoup, ou des fois, en fonction de leur environnement, également, ont enrichi ou ont des difficultés à prendre publiquement la parole sur ces questions pour parler des droits des personnes homosexuelles. Il est clair aujourd'hui qu'il y a une certaine instrumentalisation des réseaux sociaux parce que, évidemment, une personne dit quelque chose, c'est relayé plusieurs fois et on a l'impression que c'est la majorité, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et nos gouvernements également ne prennent pas toujours leurs responsabilités. Je prends, pour exemple, en Côte d'Ivoire, il y avait un projet de loi sur la discrimination, pas un projet de loi pour instituer ou reconnaître les droits des personnes homosexuelles, mais c'était une loi de lutte contre la discrimination qui pénalisait la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Mais on a vu un ou deux députés commencer à donner de la voix, certaines personnes commençaient à dire « voici le président de la République qui veut donner la Côte d'Ivoire aux homosexuels parce que c'est l'Occident ». On a vu des groupes à travers les réseaux sociaux se mobiliser et le gouvernement est revenu en arrière pour retirer cette particule qui était également de protéger des êtres humains. Et comme le premier intervenant, en tout cas qui a parlé, l'a dit que nous constituons une communauté. Et quand il dit que nous constituons une communauté, il dit qu'il n'y a pas la communauté homosexuelle. Mais en même temps, n'oublions pas que nous formons une communauté avec des spécificités. C'est pourquoi on parle des droits des femmes, c'est pourquoi on parle des droits des enfants, c'est pourquoi on parle des droits des minorités, et même l'Afrique a allé plus loin pour parler du droit des peuples. Ce qui fait que nous sommes une communauté, mais avec des spécificités à l'intérieur, dont les personnes qui ont une orientation sexuelle qui sont les homosexuels. Et donc, il faut pouvoir, je pense qu'il faut arriver, à mon sens, à ce que les défenseurs puissent commencer à comprendre, à intégrer, parce que c'est vrai qu'on parle des politiques, on parle des autres, mais il y a également une bonne part des défenseurs des droits de l'homme sur le continent africain qui, aujourd'hui, s'ils ne sont pas officiellement homophobes, ne sont pas loin officieusement d'être homophobes. Et donc, par voie de conséquence, il faut également que la communauté des défenseurs également puisse comprendre que l'universalité des droits de l'homme est...
Je vais être obligée de vous arrêter là, Maître Drissa Traoré, parce qu'on arrive vraiment au terme de l'émission. Je voudrais qu'on écoute Roméo, un auditeur qui est au Niger.
Bonsoir les auditeurs et auditrices de la VOA Afrique. Concernant la question de l'homosexualité et les LGBT, moi je suis farouchement contre parce que l'Occident est en train de mener une politique du dépeuplement de la terre. Et maintenant, on veut permettre à l'homme et homme de se marier, femme et femme de se marier. Et des fois, il y a d'autres qui disent qu'ils vont adopter des enfants. Si un mâle et une femelle ne se sont pas mariés pour avoir des enfants, toi, tu vas avoir enfant ou pour adopter. Ce n'est pas aux Occidentaux de venir nous dire comment nous devons nous comporter dans notre affaire de sentiment.
Voilà, c'était la réflexion de Roméo. Très rapidement, pour terminer, Maximilienne Ngombe, je dis très rapidement, on n'a que quelques secondes. Quels sont les principaux défis à relever pour une meilleure compréhension de la différence, la différence dans tous les sens du terme? Très rapidement, s'il vous plaît.
La première proposition, c'est de se conformer aux dispositions, n'est-ce pas, des textes qui, régionaux et internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et tous les autres instruments qui nous lient ensemble et qui ont été ratifiés, signés par nos pays. Ça, pour moi, tant que nous ne les interprétons pas de façon à ce que ça rentre dans la protection et la promotion des droits de l'homme universellement reconnus.
Oui, merci beaucoup, Maximilien Ngombe. Merci beaucoup, Maître Drissa Traoré. Un grand merci à Firmin Max Koyaweda pour la production. C'était Nathalie Barge avec vous. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée, très bon courage.